Et c'est l'heure du journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le gouvernement amorce un dialogue avec les gilets jaunes et recule sur les taxes. Moratoire de 6 mois annoncé à la mi-journée par le Premier ministre sur 3 dispositions fiscales. Édouard Philippe répond partiellement aux revendications du mouvement qui en est à son 18e jour. Nous verrons comment le Premier ministre a été plutôt chahuté dans l'Assemblée. Compte rendu de séance des questions au gouvernement avec Alexandra Dubucheron. Nous entendrons aussi les députés de la majorité et de l'opposition. Qu'en pensent les gilets jaunes? Reportage sur un barrage dans l'heure où vous l'entendrez. Ils ont l'air plutôt sceptiques et demeurent très mobilisés. Combien va coûter ce recul gouvernemental? 2 milliards d'euros au moins, mais Bruno Le Maire promet de rester dans les clous budgétaires. Il s'exprimait à Bruxelles, nous l'entendrons. Dans cette édition, nous irons justement dans la capitale belge pour comprendre ce qui va rester de la taxe sur les GAFA, les géants de l'Internet que la France notamment voudrait voir payer des impôts. Hier soir, Paris et Berlin sont parvenus à un compromis discuté aujourd'hui, nous dira Johanna Hochstein. Et puis nous suivrons aussi les premières discussions sur le Brexit qui vont se poursuivre pendant 5 jours au Parlement à Londres. Il amorce un recul, mais il ne parlera pas, du moins pas pour l'instant, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a pourtant annulé son voyage prévu initialement demain en Serbie, semble bien décidé à laisser son Premier ministre déminer seul la crise des Gilets jaunes. Revenant donc sur cette journée où le gouvernement amorce un tournant, premier temps, avec une arrivée dès 7h du matin d'Édouard Philippe à Matignon pour peaufiner son discours, rencontre ensuite avec ses troupes de La République En Marche, qui, on va l'entendre, applaudissent plutôt ce premier effort. Et puis, les annonces faites avant 13h. La colère, dit le Premier ministre, prend sa source dans une profonde injustice, celle de ne pouvoir vivre dignement du fruit de son travail. Il faudrait être sourd pour ne pas entendre cette colère. Bonsoir Alexandra Dubucheron.
Bonsoir Tara, bonsoir à tous.
Cet après-midi, donc, le chef du gouvernement est descendu dans l'arène politique à l'Assemblée nationale pour défendre ses premières concessions qu'il venait donc d'annoncer. Il s'agit, si je résume, de suspendre certaines taxes pour 6 mois, moratoire sur la taxe carbone qui devait frapper les carburants dès janvier. Pas d'augmentation pour l'instant du diesel, ni du gazole pour les professionnels non roulants, autrement dit le secteur du BTP et des agriculteurs. Pas de hausse non plus des prix de l'électricité et du gaz avant le printemps prochain. Alors comment toutes ces annonces ont-elles été accueillies, Alexandra, dans un hémicycle plutôt chauffé à blanc?
Oui, le Premier ministre a eu bien du mal à se faire entendre cet après-midi, ciblé dans la plupart des questions.
Monsieur le Premier ministre.
Légèrement fébrile, l'air fatigué, il est monté 4 fois à la tribune et à chaque fois chahuté.
S'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, la colère vient de loin.
Et même lorsqu'il salue le travail des forces de l'ordre, malgré l'ovation debout de la majorité, on entend les huées d'une partie de l'hémicycle. Chahuté donc pendant 1 heure par la droite.
Ce que vous nous demandons, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas un sursis, c'est un changement de cap.
Vous vous moquez du monde.
Visé aussi par les flèches de la France
Entendez
insoumise.
Entendez le cri d'un peuple digne et fier qui n'en peut plus que vous le méprisiez. Cédez ou partez.
Bravo. Édouard Philippe a tenté de répondre, parfois ironique, parfois professoral. Et comme pour introduire la journée de demain à l'Assemblée, il l'assure, le débat démocratique est vif, sonore, mais parfaitement nécessaire.
Merci Alexandra Dubucheron. Juste avant ces questions mouvementées, on vient de l'entendre, au gouvernement, Édouard Philippe avait passé 2 heures avec les députés de La République En Marche. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous étiez vous aussi dans les couloirs de l'Assemblée où la majorité soutient plutôt la réponse de l'exécutif quand l'opposition, ça paraît plus évident, n'est pas encore convaincue.
Oui, les attentes des députés de La République En Marche, elles étaient fortes. Plusieurs d'entre eux avaient demandé ce moratoire sur l'augmentation des taxes sur le carburant, comme Aurore Berger qui salue les annonces du Premier ministre, mais qui s'interroge toutefois sur leur réception.
On prenait le risque aujourd'hui de devenir inaudible parce qu'on donnait le sentiment d'être sourd à la colère des Français et à un certain nombre de revendications. C'est difficile de vous dire si ce sera suffisant pour une bonne et simple raison, c'est que je ne sais pas quel est l'interlocuteur qui pourra vous répondre à cette question.
Voilà, référence évidemment aux représentants des Gilets jaunes qui ne sont pas venus aujourd'hui voir le Premier ministre, ce qui n'a pas échappé aux députés Les Républicains, Philippe Gosselin, qui attendait plus de la part d'Édouard Philippe.
Quand on a court-circuité les corps intermédiaires que sont les syndicats, les fédérations, il ne faut pas s'étonner d'avoir des tables vides et des chaises inoccupées. Et puis, au-delà de cette mesure qui est un moratoire, il faudrait, je pense, avoir une mesure définitive sur l'augmentation des taxes et pas simplement renvoyer à dans 6 mois après la seconde couche qui sera le prélèvement à la source et qui va être un autre choc psychologique à tout le moins.
Alors les mesures d'Edouard Philippe, elles représentent un coût de 2 milliards d'euros pour les finances publiques, c'est ce qu'a précisé le gouvernement cet après-midi, mais pour le Rassemblement National c'est toujours insuffisant et surtout très électoraliste. Sébastien Chenu, le porte-parole du parti.
Le gouvernement cherche à tenir pendant 6 mois jusqu'aux élections européennes pour ne pas arriver dans un état lamentable lors de ces élections. On a bien compris que le moratoire, c'est-à-dire 6 mois de gel des hausses de taxes, eh bien, ne solutionnerait pas le problème puisque tout ça reviendra après.
Alexis Corbière pour les Insoumis ne dit pas autre chose, mais autrement.
C'est aux Gilets jaunes maintenant d'analyser ce qu'a dit Edouard Philippe, de le dire à leur façon. Moi j'ai cru entendre une urgence sociale, une critique contre la vie chère, et pas on reporte dans 6 mois après les élections pour prendre les mauvaises décisions. Le côté un peu manœuvrier de la part du Premier ministre s'est vu aujourd'hui. Premier recul, mais les vraies questions restent sur la table et n'ont pas trouvé de réponse.
La France insoumise qui projette toujours de déposer une motion de censure la semaine prochaine avec le Parti communiste et le Parti socialiste.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. On entend ces doutes qui s'expriment et qui se font l'écho des premières réactions des Gilets jaunes, car c'est évidemment la grande inconnue de ce conflit au 18e jour du mouvement. Les annonces du gouvernement seront-elles en mesure de désamorcer la crise? Tentative de réponse avec ce reportage à quelques 70 km de Rouen. Il illustre bien la tonalité générale relevée sur les ronds-points et autres barrages. Gaëlle Joly est allée à la rencontre des Gilets jaunes mobilisés à Saint-André-de-l'Eure qui ont entendu, sinon écouté, en direct Édouard Philippe.
Ces décisions doivent ramener l'apaisement.
Visage concentré autour du feu, il écoute le Premier ministre. Mais pour David et Solange, à l'arrivée, ces annonces, c'est de l'enfumage.
C'est du vent, c'est de la merde.
C'est du vent complet. Ah, pour nous, non, je pense pas que ça va apaiser quoi que ce soit. Non, non, c'est même pas assez, c'est rien du tout. Un gel de 6 mois, ça équivaut à rien. Parce que dans 6 mois, on va faire quoi? Il va falloir qu'on revienne encore dans la rue pour manifester. Bah, autant y rester puis obtenir ce qu'on veut dès le départ.
Ici, les Gilets jaunes attendaient la suppression définitive des taxes et une augmentation du SMIC. Ils auraient aussi préféré que le président s'adresse à eux directement.
C'est au président de prendre la parole et pas à ses sous-fifres. Il devrait assumer et lui rentrer en contact avec nous. C'est du mépris envers les citoyens et c'est pas normal.
Et ma question, c'est comment on sort de la crise là, selon vous?
Honnêtement, je le plains. Je le plains.
Car avec les kilos de nourriture, chocolat, café, chips, gâteaux ou saucissons qu'on leur offre au quotidien et ce sapin de Noël qu'ils ont décoré, ils se disent prêts à passer le réveillon ici, sur ce rond-point.
Gaëlle Joly, donc dans l'heure, a noté tout de même qu'à Brest, les professionnels du terrassement qui bloquaient un dépôt de pétrole depuis vendredi ont choisi de lever leur barrage. En revanche, à Lorient, les Gilets jaunes maintiennent la pression et certaines stations-service sont donc toujours à sec, notamment en Bretagne. On l'a donc dit, le gouvernement amorce un recul avec la suspension d'un certain nombre de taxes. Tout cela a forcément un coût politique, peut-être économique certainement, chiffré à 2 milliards d'euros pour l'instant si les taxes sont suspendues pendant la moitié d'une année, 4 milliards si elles devaient être entièrement abandonnées au terme de la grande concertation qui va s'ouvrir jusqu'au 1er mars prochain. En tout cas, la question du respect de nos équilibres budgétaires est posée et le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a tenu à rassurer nos partenaires européens.
Le cap qui a été fixé par le président de la République, c'est celui de la restauration de nos finances publiques et du respect de nos engagements européens. Donc ce cap-là, il sera évidemment tenu et nous sommes tous au gouvernement les garants de ces engagements. Je rappelle qu'en 2019, c'est une année qui est tout à fait exceptionnelle puisque vous avez la transformation du crédit d'impôt compétitivité des entreprises en allègement de charges, qui a un coût élevé pour les finances publiques. Mais si on retire cette mesure exceptionnelle, nous sommes à 1,9% de déficit public en 2019. En tout cas, c'est ce qui est prévu par le projet de loi de finances. Donc les engagements doivent être tenus.
Pas d'ambiguïté donc, si on en croit le patron de Bercy, Bruno Le Maire, qui était au micro de Johanna Hochstein. La France va rester dans les clous. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Tara.
Bruno Le Maire confirme en quelque sorte ce que le Premier ministre déclarait lui-même au cours de son discours à la mi-journée. Les Français ne veulent plus de hausse d'impôts, nous non plus, disait-il en parlant du gouvernement. Mais dans la foulée, il ajoutait, si les impôts baissent, il faudra que les dépenses baissent, car nous ne voulons pas léguer des dettes à nos enfants. Autrement dit, Stéphane, le gouvernement pourrait bien accorder d'une main ce qu'il retirerait de l'autre. Est-ce suffisant pour amorcer un dialogue avec les Gilets jaunes?
Non, sans doute pas. Mais on peut se poser une question. Y avait-il une mesure ou une série de mesures susceptibles de calmer la colère qui s'exprime à travers ce mouvement des Gilets jaunes? La réponse, là encore, est non. Sans doute pas. Car il y a quelque chose de complètement irrationnel dans ce qui se passe depuis deux semaines. Il n'y a pas vraiment de revendications, ou plutôt il y en a une multitude, et qui vont dans tous les sens. Il faut augmenter le SMIC, disent certains. 300 euros de plus pour tout le monde. Ah oui, mais ça, ça va coûter des dizaines de milliards d'euros. Comment est-ce qu'on finance? Mais on va bien trouver, on est un pays riche. C'est simple, explique un parlementaire qui discute avec un certain nombre de manifestants depuis deux semaines. Ils n'ont aucun sens des réalités, aucune notion de ce qu'est la gestion du domaine public, de combien ça coûte, de qui paye. Et si vous avancez le moindre chiffre pour engager la discussion, pour essayer de rationaliser les débats, ils remettent en cause ce que vous dites, ils ne vous croient pas. Et ce parlementaire de conclure, tout ça sent la Carmagnole, nous élus sommes les petits marquis d'aujourd'hui, je ne sais pas bien comment ça peut finir. Dans ces conditions, on voit bien que le discours qui se veut rationnel porté par les ministres du gouvernement sur les contraintes budgétaires, sur les nécessaires choix qu'il faudrait faire pour financer telle ou telle mesure ne passe pas. Il faut donc s'attendre vraisemblablement à de nouvelles manifestations et potentiellement à de nouvelles violences le week-end qui vient. Le pouvoir exécutif en est sans doute conscient, mais après avoir annoncé ces mesures cette semaine en signe d'apaisement, il pourra plus facilement justifier le fait de réprimer les prochaines manifestations si elles dérapent et donnent lieu à des violences comme les deux week-ends précédents.
Merci Stéphane Robert. En attendant, effectivement, sur le terrain, l'apaisement n'est pas encore au rendez-vous. Signe de la nervosité des pouvoirs publics, les matchs de la Ligue 1, PSG, Montpellier et Toulouse-Lyon qui devaient se jouer samedi sont reportés. Le Premier ministre appelle les Gilets jaunes raisonnables à se désolidariser des violences, à ne pas se rendre à samedi Paris, à ne pas se rendre samedi prochain à Paris. Un mot encore des lycéens qui poursuivent leur mobilisation eux aussi. 200 lycées bloqués sur 4200 que compte la France. À Lyon, 19 interpellations de jeunes et 3 policiers blessés. En région parisienne, d'ailleurs, toujours autour des lycées d'Aubervilliers, feux de voitures et poubelles incendiées également à Saint-Ouen et dans le Val d'Oise. On l'entend donc, le calme n'est pas revenu. Bonsoir Thomas Larabi.
Bonsoir Tara.
La question du maintien de l'ordre et des sanctions à opposer aux manifestants se pose toujours. Depuis hier, notamment, les gilets jaunes arrêtés à Paris sont jugés. Quelques 412 personnes avaient été interpellées dans la capitale, 70 donc jugées hier. 6 ont écopé de prison ferme. Le défilé continue aujourd'hui, Thomas. Et parmi les personnes qui interviennent à la barre, beaucoup d'inconnus de la justice.
Oui, des avocats qui pestent contre une justice à la chaîne sous la pression du garde des Sceaux et des juges qui suivent souvent les réquisitions du procureur. Des syndicats de police globalement satisfaits de la réponse judiciaire et du nombre de condamnations. 20 peines de prison ferme, 6 sont restés dormir en prison. Mais ce sont davantage les profils des prévenus qui choquent et contrastent avec les images de violence du week-end dernier. À la barre, pas d'ultra étiqueté extrême gauche ou extrême droite, peu de pilleurs. Il s'agit pour la plupart de personnes n'ayant jamais eu d'ennui avec la justice. Certains ont même été arrêtés avant de rejoindre la manifestation, dissimulant des lunettes de ski, des casques ou encore des lance-pierres. Jugés donc pour avoir eu l'intention d'en découdre, une intention souvent affichée sur les réseaux sociaux ou échangée par message. Pour Grégory Joron, secrétaire national pour Unité SGT Police FO, voir ces profils défiler à la barre n'a rien d'étonnant.
Le petit pourcentage de casseurs qu'on a malheureusement vu ces deux derniers samedis savent aussi comment les forces de l'ordre agissent, la manière dont on manœuvre. Ils savent très bien que, voilà, on va dire, détecter les charges et la manière dont on gère les foules. Donc c'est en effet plus difficile à gérer, ils sont plus difficiles à interpeller que le manifestant lambda qui pourrait suivre un mouvement et qui pourrait déraper en s'adonnant à des violences qui lui n'y étant pas habitué est plus souvent l'objet d'interpellations évidemment.
D'ailleurs, les syndicats de police ont demandé ce matin à Christophe Castaner la mise en place d'ADN synthétique, un produit indélébile qui pourrait être lancé par les forces de l'ordre sur les manifestants violents et qui permettrait par la suite de les interpeller beaucoup plus facilement. Il réclame également que le port de la cagoule en manifestation devienne une infraction en tant que telle. Aujourd'hui, elle n'est qu'une circonstance aggravante en cas de violence.
Merci beaucoup Thomas Larabi. J'ajoute que la fac de Tolbiac a voté un blocage de l'université qui doit entrer en vigueur demain mercredi. À l'étranger, à Bruxelles, se joue pendant que la crise des gilets jaunes persiste une partition très importante. Il s'agit de la taxe sur les GAFA, les géants de l'Internet, en gestation depuis des mois et dont l'Europe a bien du mal à accoucher. La France s'est battue beaucoup pour que cette taxe, présentée comme une mesure de justice fiscale et sociale, soit votée. Hier soir, à Paris et Berlin sont parvenus à un compromis moins contraignant que le texte initial pour que les GAFA payent des impôts. Aujourd'hui, les ministres des Finances de l'Union européenne examinaient cette proposition. Johanna Hochstein est à Bruxelles.
Comment expliquer aux chefs d'entreprise français qui paient 30% d'impôts que Google ou Facebook en paient deux fois moins, s'interroge le ministre français de l'économie, d'autant plus dans un contexte aussi tendu, une allusion directe au mouvement des Gilets jaunes. Bruno Le Maire défend depuis le début l'instauration d'une taxe sur le numérique. C'est une question de justice fiscale et sociale, insiste-t-il. Mais ce dossier a du plomb dans l'aile. La France et l'Allemagne sont finalement parvenus, après de longues heures de négociations, à se mettre d'accord. Paris et Berlin proposent de taxer à hauteur de 3% le chiffre d'affaires des entreprises du numérique. Mais pour convaincre son homologue allemand, Bruno Le Maire a dû accepter de restreindre le champ de la taxe au seul commerce des données liées à la publicité en ligne, une base bien plus réduite que celle proposée par la Commission européenne, qui rapporterait 4 fois moins. Mais Berlin ne voulait pas provoquer les États-Unis avec une taxe trop large qui viserait les géants de l'Internet américain. Les Européens doivent maintenant se mettre d'accord sur la base de cette proposition. Et il faut aller vite, selon Pierre Moscovici, le commissaire européen à la fiscalité.
Il faut conclure là-dessus avant les élections européennes. Il y a une vraie demande d'Europe sur ce sujet-là. Nos concitoyens ne supportent pas, et ne supportent plus, que ces grandes entreprises numériques ne payent pas d'impôts ou payent peu d'impôts, là où elles créent de la valeur et des profits, elles doivent payer tout simplement leur juste part d'impôts.
Reste à convaincre 4 pays, l'Irlande, le Danemark, la Suède et la Finlande, parce qu'au niveau européen, il faut l'unanimité sur ces questions de fiscalité.
Johanna Hochstein, partons maintenant pour Londres, où se joue un nouveau chapitre important du divorce annoncé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Parlement britannique doit débattre pendant 5 jours du Brexit et il devait voter le 11 décembre prochain sur l'accord négocié âprement par Theresa May, la première ministre depuis pratiquement un an et demi. Bonsoir Antoine Gignot, vous êtes en
Bonsoir.
Direct de Londres. Un vote vient d'avoir lieu à l'instant.
Oui, un vote qui est un peu une répétition générale de cette audience qui aura lieu le 11 décembre. C'est une sorte de moyen pour les partis d'examiner les forces en présence avant la grande bataille. Ce qui a été validé cet après-midi n'a aucune valeur juridique. Ça ne va pas changer le cours du Brexit. Il s'agissait juste de constater que le gouvernement a outrepassé ses droits et négligé le Parlement en ne publiant que des extraits de notices juridiques. Aucune conséquence donc, mais c'est une défaite cuisante pour Theresa May, parce que d'un côté, les conservateurs ne sont que 293 à avoir soutenu la première ministre, beaucoup moins que les 315 qui auraient pu voter en faveur du texte. L'opposition, à l'inverse, a massivement voté contre, une opposition unie, les travaillistes, les indépendantistes écossais, les nationalistes gallois, les unionistes nord-irlandais, les libéraux démocrates, les verts, la majorité enfin des élus sans étiquette. Au total, près de 311 personnes. Le gouvernement ne peut donc plus s'appuyer sur personne hors du parti conservateur, et les débats qui s'annoncent risquent d'être longs et houleux. D'ailleurs, même la BBC, faute de pouvoir trouver un accord avec les différents partis politiques, vient de décider d'annuler l'émission spéciale prévue sur le sujet dimanche. Il y avait, explique l'un des journalistes, trop de débats sur la manière d'organiser le débat.
Merci beaucoup Antoine Gignot en direct de Londres. On va terminer avec la situation dans les prisons françaises, vue d'Europe toujours. Le Conseil de l'Europe vient de publier 2 rapports qui confirment ce que l'on savait déjà, la surpopulation carcérale est criante en France. 70 708 détenus encore au mois d'octobre, c'est toujours un record. Et nous faisons partie, Anya Vogel, des mauvais élèves européens.
Oui, effectivement, entre 2005 et 2015, le nombre de détenus en France est passé de 58 000 à plus de 76 000, ce qui correspond, rapporté au nombre d'habitants, à une augmentation de plus de 23 %. Cela reste beaucoup, d'autant plus que durant cette décennie, les taux ont globalement baissé dans les pays d'Europe de l'Ouest. L'Allemagne et les Pays-Bas affichent désormais parmi les plus faibles taux d'incarcération. L'Estonie et la Lettonie ont considérablement réduit les leurs. Ils ont en revanche fortement augmenté en Lituanie, en Géorgie et surtout en Turquie, qui a de loin le plus fort taux de détenus, 4 fois plus élevé qu'en France. La France réussit à rester dans la moyenne européenne grâce à une augmentation du nombre de places en prison, mais elle a toujours du mal à juguler sa surpopulation carcérale et reste pointée du doigt pour la part trop importante de personnes en détention préventive, donc en attente d'un jugement, dont une grande part d'étrangers. Ils représentent toujours 1/5 des détenus en France. Beaucoup sont des migrants en situation irrégulière, placés en préventive. Les chercheurs de l'Université de Lausanne Suzanne, qui réalise l'étude, regrette d'ailleurs de ne pas disposer des chiffres précis. Ils encouragent par ailleurs la France à développer davantage la probation et les peines alternatives pour les délinquants, y compris étrangers. À noter que les taux de décès et de suicide sont en baisse, mais continuent d'être considérés comme élevés.
Anya Vogel à Strasbourg, un petit mot encore de cette condamnation par le Conseil d'État de la France pour les conditions de détention d'un prisonnier en Guyane, un homme incarcéré dans une cellule de 12 mètres carrés avec deux co-détenus sans aération et système donc d'aération adapté. Le Conseil d'État a donc condamné la France à lui verser 5 500 € de dommages. Le temps demain avec un nouveau passage pluvieux sur la France. Le temps sera plus calme à l'exception du nord-ouest où il va donc beaucoup pleuvoir et les températures seront plutôt douce entre 2 et 11 degrés dès le matin. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.